Il s'approcha du bas-flanc où somnolait son compagnon de geôle.
« Mon oncle, » dit-il, « ce sera pour ce soir. »
Le vieux lord de Tchirk se tourna en gémissant, éleva vers son neveu ses prunelles décolorées qui brillaient d'une lueur glauque dans l'ombre de la cellule, et répondit avec lassitude
« On ne s'évade pas de la tour de Londres, mon garçon. Personne, ni ce soir, ni jamais. »
Mortimer le jeune eut un mouvement d'irritation. Pourquoi cette obstination négative, ce refus du risque de la part d'un homme qui, au pire, avait si peu de vie à perdre? Il s'interdit de répondre pour ne pas s'emporter. Bien qu'ils parlassent français entre eux, comme toute la cour et la noblesse, alors que les serviteurs, les soldats et le commun peuple parlaient anglais, ils craignaient toujours d'être entendus. Mortimer revint au soupirail et regarda de bas en haut la parade avec le sentiment exaltant d'y assister peut-être pour la dernière fois. Au niveau de ses yeux passaient et repassaient les housseaux de la troupe. De gros souliers de cuir frappaient les pavés. Et le lord Wigmore ne pouvait s'empêcher d'admirer les évolutions précises des archers, ces remarquables archers anglais, les meilleurs d'Europe, qui tiraient jusqu'à 12 flèches à la minute. Au milieu du green, Allspay, le lieutenant, raide comme un pieu, criait les ordres à pleine voix et présentait la garde au constable. On comprenait mal que ce grand jeune homme, blond et rose, si attentif à son service, si visiblement animé du désir de bien faire, eût accepté de trahir. Il fallait qu'il y eût été poussé par d'autres motifs que le seul appât de l'argent. Gérard Allspay, lieutenant de la tour de Londres, souhaitait, comme beaucoup d'officiers, de shérifs, d'évêques et de seigneurs, voir l'Angleterre débarrassée des mauvais ministres qui entouraient le roi. Sa jeunesse rêvait de jouer un rôle héroïque. De plus, il haïssait et méprisait son chef, le constable Seagrave. Ce dernier, un borgne à joues flasques, buveur et nonchalant, ne devait sa haute charge qu'à la protection, précisément, des mauvais ministres. Pratiquant ouvertement les mœurs dont le roi Édouard faisait étalage devant la cour, le constable se servait volontiers de sa garnison comme d'un harem, et ses goûts le portaient par préférence vers les grands jeunes hommes blonds. Aussi, l'existence du lieutenant Allspay, fort dévot et éloigné du vice, était devenue un enfer. Ayant naguère repoussé les tendres assauts du constable, Allspay en subissait maintenant les continuelles persécutions. Il n'était de tracasserie, de vexation que Seagrave ne lui infligeât. Le borgne avait les loisirs de la cruauté. Dans l'instant même, passant l'inspection des hommes, il accablait son second de moqueries grossières pour des vétilles, pour un défaut d'alignement, pour une tache de rouille sur le fer d'un couteau, pour une minuscule déchirure dans le cuir d'un sac à flèches. Son œil unique ne cherchait que le défaut. Bien que ce fût fait, jour où de coutume les punitions étaient levées, le constable ordonna que 3 soldats fussent fouettés sur le champ à cause du mauvais état de leur équipement. Un sergent alla quérir les verges. Les hommes punis durent baisser leurs choses devant tous leurs camarades alignés. Le constable parut fort s'amusé du spectacle.
« Si la garde n'est pas mieux tenue la prochaine fois, Allspay, ce sera vous, » dit-il.
Puis toute la garnison, à l'exception des sentinelles, se rendit à la chapelle pour entendre messe et chanter cantique. Les voix rudes et fausses parvenaient jusqu'aux prisonniers, aux aguets derrière son soupirail.
« Soyez prêts pour ce soir, my lord !»
L'ancien délégué du roi en Irlande ne cessait de penser que le soir, peut-être, il serait libre.
Une journée entière à attendre, à espérer, à craindre aussi. Craindre que Ogle ne commit une sottise dans l'exécution du plan préparé, craindre que Allspay, à la dernière minute, ne soit ressaisi par le sens du devoir.
Une journée à prévoir tous les obstacles fortuits, tous les éléments de hasard qui peuvent faire manquer une évasion.
« Il vaut mieux n'y pas songer, se dit-il, et croire que tout ira bien, les choses surviennent toujours différemment de ce qu'on a pu imaginer. »
Mais sa pensée revenait au même souci.
« Il y aura les veilleurs sur les chemins de ronde. »
Il fit un brusque saut en arrière. Le corbeau avait avancé en tapinois le long du mur, et il s'en était fallu de peu cette fois qu'il n'atteignit l'œil du prisonnier.
« Ah, Édouard, Édouard, c'en est trop à présent, » dit Mortimer entre les dents. « L'un de nous deux aujourd'hui doit l'emporter. »
La garnison venait de sortir de la chapelle et d'entrer au réfectoire pour les ripailles traditionnelles. Le geôlier reparut sur le seuil de la cellule, suivi d'un gardien chargé du repas des prisonniers. Le brouet de fèves, par exception, était engraissé d'un peu de viande de mouton.
« Forcez-vous à vous mettre le bout, mon oncle, » dit Mortimer.
« Et l'on nous prive même de la messe comme des excommuniés, »
dit le vieux lord sans bouger de son bas-flanc. Le porte-clés s'était retiré. Les prisonniers seraient sans autre visite jusqu'au soir.
« Ainsi, mon oncle, vous êtes vraiment résolu à ne point m'accompagner ?»
demanda Mortimer.
« T'accompagner où, mon garçon ?»
répondit le lord de Cherk.
« On ne s'évade pas de la tour, je te le répète. Nul n'y est jamais parvenu. On ne se rebelle pas non plus contre son roi. Édouard n'est pas le meilleur souverain que l'Angleterre ait eu, certes non, mais... Et ces deux Despenser mériteraient bien d'être à notre place. Mais on ne choisit pas son roi, on le sert. Jamais je n'aurais dû vous écouter, Thomas de Lancastre, et toi, quand vous avez pris les armes, car Thomas a été décapité, et voilà où nous sommes. »
C'était l'heure où, après quelques bouchées avalées, il consentait à parler d'une voix monotone et lasse, pour ressasser d'ailleurs les mêmes propos que son neveu entendait depuis 18 mois.